Vous écoutez Les Oreilles Loin du Front sur Fréquence Paris Pluriel et ce soir, on vous diffuse des extraits d'une interview réalisée la semaine dernière avec Léon Drapeau, architecte diplômé à Bruxelles et dont les recherches se concentrent sur les liens entre le genre et l'espace. Je la recevais, enfin, on se comprend, autour d'un article paru récemment sur le net dans The Site Magazine et intitulé « Founding the Feminist Utopia », littéralement « Créer une utopie féministe ». Elle a commencé par me parler un peu de sa vision du métier d'architecte, à quel point il était porteur de valeurs et donc finalement d'ordre social. Elle, ce qui l'a rapidement intéressée, c'est le genre et l'architecture féministe. Faute d'exemples convaincants dans les ouvrages du monde réel, comme elle le dit, trop souvent le jeu de compromis, elle s'est alors tournée vers la fiction, vers l'utopie, pour voir comment on pouvait aller le plus loin possible dans le genre et l'espace.
Bonsoir, merci à vous de m'inviter, c'est un plaisir. Je m'appelle Léon et je suis architecte. C'est vraiment de là pour moi que part ce positionnement que j'ai, ou cette recherche, disons, ou cette quête que j'ai de comprendre. En tant qu'architecte, pour moi, c'est important de dessiner un espace, de dessiner des lieux, de construire des lieux qui répondent à une idéologie à laquelle je peux adhérer. Pour moi, l'espace, l'architecture, les lieux qui nous entourent, c'est toujours, toujours, sans exception, des vecteurs d'un ordre social. C'est des manières d'exprimer une politique, des manières d'exprimer une idéologie, des manières de véhiculer des valeurs, les valeurs d'une société ou d'un maître d'ouvrage, tout simplement, qui porte un projet d'architecture. Le projet devient la traduction de ces valeurs-là. Et donc, pour moi, ça a été extrêmement intéressant, enfin, important, en fait, de m'interroger sur qu'est-ce que peut être un espace féministe. Et en fait, ma recherche, elle a débuté quand j'étais encore étudiante, que j'ai été confrontée au choix d'un sujet de mémoire où j'ai voulu étudier l'architecture féministe. J'ai cherché, et j'ai pas trouvé d'exemple qui me paraît suffisamment convaincant, qui méritait en tout cas d'être étudié, d'une architecture féministe. Il y a de plus en plus de femmes qui sont architectes. Bon, déjà, il y en a beaucoup plus à l'école que dans la pratique. Et une fois dans la pratique, il y en a beaucoup plus, ou il y en a très peu, ou peu, en tout cas, qui arrivent au niveau de direction des différentes agences. Donc, il y a un déficit statistique qui augmente. Donc, pour moi, ça a été important, non seulement d'être une femme architecte, donc praticienne, c'est extrêmement important pour moi, mais aussi d'être certaine que je véhicule les valeurs que je veux défendre. Donc, même s'il y a des femmes architectes, il y en a peu qui se disent féministes. Or, pour moi, c'est crucial. Je suis donc partie à la recherche d'une manière de parler d'architecture féministe, et pour moi, la solution, moi qui ai toujours adoré lire, ça a été de regarder l'utopie. Lorsqu'on écrit un roman utopiste, on se pose forcément les questions sur, déjà, qu'est-ce que c'est que cette utopie ? Parce qu'en soi, une utopie féministe, c'est pas si facile à définir non plus, comme toute utopie d'ailleurs. Mais ensuite, ce qui m'a intéressée avec la fiction, c'est que quand un auteur ou une autrice raconte une histoire qui met en place un ordre social idéal, il faut forcément avoir décrit les espaces dans lesquels cette utopie prend place. Donc, quand je disais tout à l'heure que l'espace est un vecteur d'expression d'un ordre social, c'est ça que je suis allée chercher dans la fiction. Comment est-ce que l'espace est raconté dans une utopie ? Un bâtiment ou un projet quelconque, tout architecte pourra vous le dire, le compromis, c'est une part très, très importante du processus. L'architecte est là pour formaliser toute une série d'enjeux sociétaux, bien sûr, idéologiques, c'est ce qui me passionne, mais aussi économiques, aussi individuels, aussi personnels, aussi légaux, tout simplement, écologiques. Il y a plein de critères et on doit arbitrer entre toutes ces choses. Moi, ce qui m'intéressait, j'ai trouvé des exemples, quelques exemples d'architecture ou de pratiques d'architecture féministe. Mais pour moi, j'avais besoin de comprendre quand on sortait du compromis, quel était le plus idéal, le plus idéaliste que je pouvais être, en gros. Comment aller le plus loin possible. Ça m'intéressait que moyennement de voir ce qu'on avait réussi tant bien que mal à faire sortir d'une âpre négociation. Le concept d'utopie, c'est pas moi qui l'ai défini, je me suis appuyée sur une définition existante parce que par ailleurs je la trouve très juste. Vous savez que quand on utilise le terme utopie, on fait en fait référence à deux sens ou deux interprétations de ce même mot. Topos, donc qui donne topi, c'est le lieu, et le préfixe u, il peut être compris de deux manières. Il peut être compris comme étant la négation, donc le non-lieu, le lieu qui n'existe pas, mais aussi u, le bon lieu, le lieu le bon lieu, voilà. Et l'utopie, c'est un mélange où on ne sait pas, c'est le lieu qui n'existe pas, mais qui serait parfait. Et c'est vraiment ça pour moi, il ne s'agit pas du tout d'essayer de créer une utopie dans le monde réel, encore que, il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on vise pour pouvoir ensuite le faire percoler dans le réel.
Tout au long de cet article, elle détaille trois formes d'organisation de l'espace qui chacune porte des valeurs d'ordre social différent, en installant des relations de pouvoir, bien sûr avec les hommes, mais aussi entre les femmes. On a passé un peu de temps sur le premier modèle de cet article qu'elle décrit comme le plus évident, celui de la forteresse.
Dans cet article, j'ai voulu m'intéresser spécifiquement à comment on fonde une ville, ou comment dans la fiction on a fondé des villes utopistes. Parce que dans les efforts féministes liés à l'architecture, il y a beaucoup de résolutions à beaucoup de petite échelle. Donc il y a beaucoup de femmes qui ont été maîtresses d'œuvres de maisons, par exemple. Il y a eu de grosses recherches sur la rationalisation de la cuisine qui permettait d'économiser les tâches ménagères. Mais donc souvent, on accuse l'architecture féministe d'être trop peu ambitieuse. Et donc là, j'ai voulu prendre la démarche inverse, de dire, OK, alors voyons à la plus grande échelle possible, l'échelle du territoire, qu'est-ce qu'on a pensé, ou qu'est-ce que les romancières de fiction ont pensé. Et pour parler spécifiquement de la forteresse, c'est un peu la typologie spatiale la plus évidente. On veut créer une utopie féministe, alors on prend des femmes, on fait une ville rien que pour elles, et on voit ce que ça donne. Donc, il ne faut pas comprendre ça comme une proposition spatiale. Il faut voir ça comme une manière d'interroger par l'espace comment on définit le genre. C'est-à-dire, en séparant les hommes et les femmes, c'est souvent ce que fait la forteresse. Il faut enfermer une chose et la séparer par rapport à une autre. C'est ça la fonction de cette forteresse-là. Généralement, ce qui est séparé, c'est les hommes et les femmes, dans tous les exemples que j'étudie, encore que. Mais ça permet quoi? Ça permet de dire, quand on met plein de femmes ensemble et qu'elles construisent une ville, comment elles s'y prennent? Et donc là, ça permet d'interroger, et c'est notamment ce que fait l'un des romans que j'utilise en exemple dans cette partie-là, c'est le livre de Pamela Sargent qui s'appelle « The Shore of Women », où là, on a eu une grosse catastrophe nucléaire dans le monde. Ça a été la misère pendant très longtemps, la planète a été extrêmement détruite, et les femmes de l'époque de ce cataclysme se sont dit « trop c'est trop, les hommes sont responsables de cette crise, il faut maintenant leur ôter tout pouvoir ». Et de ce fait, elles prennent le pouvoir et mettent en place un système de ségrégation spatiale genrée. Ce que fait ce roman, c'est que, de manière assez forte et intéressante, c'est qu'il interroge, par exemple, les archétypes qu'on associe à différents genres. Quand on a souvent dans la tête, et c'est un trait culturel, d'opposer certains termes et de les associer plutôt féminin, plutôt masculin. Par exemple, on a tendance à considérer que les femmes occupent plutôt la maison, l'intérieur, alors que les hommes sont plutôt à l'extérieur, dans l'espace public. Ça, c'est un peu un archétype spatial, mais on peut aller aussi dans des choses beaucoup plus... Les femmes sont plus douces, les hommes sont plus assertifs. Enfin, y a plein de choses un peu clichés comme ça qu'on ne remet pas nécessairement en question. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est des caractéristiques genrées qu'il faut prendre comme telles, hein, bien loin de là. Mais donc, cette autrice, ce qu'elle fait, c'est que, justement, elle interroge ça en renversant. Donc, elle fait deux choses. Il y a certaines caractéristiques qu'on estimerait genrées qu'elle conserve en tant que telles, et il y en a d'autres qu'elle renverse complètement. Par exemple, on a tendance à penser... Et ça, c'est l'un des héritages, ou c'est l'une des choses qui est soulignée par l'écoféminisme, mais pas que les femmes sont plus proches de la nature, parce qu'elles ont leurs règles, parce qu'elles ont ce cycle lunaire, parce qu'elles mettent au monde les enfants, parce que plein de choses, on peut articuler de plein de manières différentes cette construction sociale, alors que les hommes, c'est plus la technique, la rationalité, le raisonnement, et plus la transcendance. Donc, ce que fait Sargent dans ce livre-là, c'est qu'elle renverse complètement ce rapport genré à cette binarité-là. Dans son roman, les femmes occupent la ville. La ville est très, très technique, très technologisée, très avancée scientifiquement, extrêmement... Il n'y a plus de maladies, tout le monde est en extrême sécurité, confort absolu. À l'inverse, les hommes, ils sont organisés en bandes, elle appelle ça vraiment des bandes un peu claniques ou tribales, et ils rôdent dans le paysage comme ça, ils chassent. ils n'ont pas le droit de cultiver et ils ont une relation à la nature qui est extrêmement proche. Ils savent lire le climat, ils savent prévoir l'arrivée des saisons, ils comprennent les traces des animaux dans ce genre de choses. Donc là, en faisant ça, elle a complètement détaché les femmes de cette notion de proximité à la nature. À l'inverse, une chose qu'elle ne met pas du tout en question, c'est que dans sa ville utopiste, rien n'est parfait évidemment, faut pas penser ça, il y a aussi une ségrégation où il y a les femmes du peuple qui ne mettent au monde que des filles, et puis il y a une caste de dirigeantes qui s'appelle les mères qui a la responsabilité de aussi mettre au monde les garçons qui sont ensuite envoyés de par le monde et utilisés pour insémination une fois de temps en temps quand on en a besoin. Et ces mères, c'est elles qui dirigent la cité, elles habitent vraiment physiquement l'épaisseur de la muraille de la ville où il y a toutes les fonctions gouvernementales, hautement technologiques comme la production d'énergie, ce genre de choses. Et là, ce que décrit l'autrice en termes de composition spatiale, c'est une opposition très forte entre la ville pour les femmes du peuple, qui est très souple dans son agencement, qui est très avec beaucoup d'espace public, beaucoup d'occupations assez informelles de l'espace public, des bâtiments plutôt bas, plutôt articulés de manière un peu organique, ce genre de choses. Alors que les dirigeantes, celles qui ont le pouvoir, elles occupent un bâtiment très haut, très épais, très massif, imposant, très tramé, très rigide, aux espaces très, très formellement durs. Donc là, elle ne remet pas du tout en question, par exemple, la relation entre cette architecture très, très, très dure et un trait qui est associé habituellement au masculin, qui est celui du pouvoir.
Léon Drapeau m'a ensuite raconté un des autres modèles cités dans son article, celui de la superposition, qu'elle trouve en fait le plus ambitieux, mais aussi le plus dur à mettre en place.
Et ce qui est très très intéressant avec cette utopie-là, c'est que elle se bâtit également à partir d'une crise écologique où on se retrouve à San Francisco, si je me souviens bien, où il y a une pénurie d'eau mondiale. Et donc, on est dans un système extrêmement dur du point de vue de la survie. Et ce qui se passe, c'est que à un moment donné, dans ce bouleversement sociétal et cette crise où il y a une prise de pouvoir militaire, des répressions très très fortes, beaucoup de violence, il y a un moment, quatre vieilles femmes qui descendent dans la rue et qui disent « Stop, ça suffit, maintenant la rue est à nous », qui bêchent, qui creusent, qui arrachent la rue, qui plantent physiquement des graines dans du compost. Et c'est là que se trouve le point de basculement d'une part de la révolution, qui permet l'instauration d'un nouvel ordre et de chasser la junte militaire, mais aussi vraiment concrètement d'un point de vue spatial, les gens ont pris possession de la ville en subvertissant une chose très simple, c'est les routes. Donc en gros, ce qu'ils ont fait, c'est que ça se passe sur un peu plus longtemps, une fois que le processus révolutionnaire est en place, mais les routes ne sont plus uniquement pour circuler, c'est aussi des jardins collectifs, c'est aussi des rivières, des ruisseaux, des espaces publics, des espaces de discussion, des espaces de rencontre, un peu des espaces de tout, en fait. Et du coup, si on imagine la ville telle qu'on la connaît aujourd'hui, on a des rues, des places et des bâtiments, bah, finalement, on a même ça, qui semble si essentiel dans la manière dont on définit la ville, même ça n'existe plus. Or, ça part d'un geste tellement simple.
Je lui ai enfin demandé si les utopies, ça marchait toujours, justement parce que ce sont des utopies ou pas. Elle m'a répondu qu'en fait, les utopies qu'elle trouvait les plus convaincantes n'étaient pas celles qui prétendaient que les problèmes n'existaient pas, mais au contraire, bien celles qui expliquaient comment on gérait des problèmes très compliqués, comme la criminalité ou la crise climatique.
Une autre chose très, très importante à laquelle les utopies doivent répondre, c'est comment est-ce qu'on gère la crise climatique ? Et ce n'est pas forcément dit dans ces termes-là, qui sont des termes très contemporains, puisque la plupart des romans auxquels je fais référence, ils sont des années 70, donc il y a tout le poids de cette époque-là. Mmh. Mais il y a toujours comment est-ce qu'on gère le rapport à la nature, comment est-ce qu'on cesse ou qu'on diminue l'exploitation irraisonnée de la nature. Et il y a un roman que j'aime particulièrement qui fait ça, je trouve, assez merveilleusement bien. En tout cas, c'est l'une des utopies que je trouve la plus convaincante. C'est celle qui s'appelle « Woman on the Edge of Time » de Marge Piercy, donc « La femme à l'oreille du temps ». C'est un livre qui n'a pas été traduit malheureusement, mais qui mérite vraiment d'être vu, d'être lu. Son postulat à cette autrice, c'est de dire il existe une taille maximum à laquelle les sociétés humaines peuvent fonctionner. Et donc, elle organise l'ensemble du territoire en somme de petites villes. Je ne sais plus quel est son nombre, son seuil, mais voilà, une somme de communautés. Et elle réorganise le système politique en différents échelons à partir de qu'est-ce qui se décide dans une communauté ou un village, qu'est-ce qui se décide dans un ensemble de communautés et qu'est-ce qui se décide, voilà, à l'échelon au-dessus. Et je pense qu'il doit y avoir quelques échelons jusqu'à 5, par exemple. Mais ce qu'elle fait, du coup, en termes de relation à l'environnement, quand elle pose ça, c'est qu'elle fait interagir chaque communauté avec un milieu naturel directement. Et notamment, elle ménage des zones des zones sauvages, en fait, des zones où les humains ne peuvent pas pénétrer ni agir d'une quelconque manière. C'est des zones qui ne sont pas disponibles aux humains.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans les oreilles loin du front et c'était des extraits d'une interview de Léone Drapeau, architecte dont les recherches se concentrent sur les liens entre le genre et l'espace. On espère la recevoir bientôt à l'occasion du livre sur lequel elle travaille actuellement, toujours autour de ce thème, mais qui interrogera d'autres échelles, comme celle de l'habitat ou du logement.